Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste. Avec vous pour redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle et j'espère intéressante. Vous allez voir, on ose regarder les pages les plus insolites de la Bible et je pense qu'on trouve des choses assez intéressantes. Première question pour vous. Connaissez-vous le Cantique des Cantiques? Si oui, vous devez savoir que la Bible contient des pages de poèmes érotiques. Si vous n'avez jamais pris la peine de lire ça, vous risquez d'être un peu surpris de ce que vous allez entendre aujourd'hui. Amour, sensualité, sexualité, c'est ce qui nous attend. Et en prime, je vais vous donner une ou deux anecdotes personnelles liées à ce livre biblique. Bonne émission! Habituellement, nous prenons toujours le temps de présenter vos réactions suite à l'émission qui a été réalisée la semaine d'avant. Mais cette semaine, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va prendre le temps de lire un extrait d'une critique qui vient tout juste d'être publiée dans Le Devoir sous la plume de Louis Cornelier, puisqu'elle présente le livre qui est à la base de cette émission-là. Le livre, c'est « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » publié chez Novalis et Mediapol, et j'en suis l'auteur. Alors, Louis Cornelier a écrit un article dans Le Devoir qui est intitulé « Petite leçon d'interprétation » et je vais vous la lire. Un point de vue moderne. Détenteur d'une maîtrise en études bibliques et animateur de pastorale au Collège Saint-Jean-Vianney, Sébastien Daune connaît et aime la Bible. Cela ne l'empêche pas de reconnaître que certains des récits qu'elle comporte sont pour le moins insolites, voire inacceptables du point de vue moderne. Daune rencontre souvent des élèves qui lui disent que la Bible est ennuyeuse, sans la connaître, bien sûr. « Ça tombe mal que la naissance de Jésus soit célébrée en même temps que Noël », lui a déjà lancé un jeune en découvrant les récits de la Nativité. Il croyait qu'il s'agissait d'un malheureux hasard et que Jésus, évidemment, souffrait d'une telle concurrence commerciale. Au lieu de contourner la difficulté que représentent les épisodes bizarres, parfois cruels, parfois incohérents de la Bible, dans la mission qui consiste à faire découvrir et apprécier ce texte, Daune a choisi d'en faire le cœur de son projet. Composé de 34 essais d'interprétation de récits insolites de la Bible, « Mais d'où vient la femme de Caïn ?» propose une instructive et ludique initiation à la lecture du grand texte dont aurait pu bénéficier mon enseignant lorsque j'étais au secondaire. Dans la Genèse, par exemple, Caïn, après avoir tué son frère, se trouve une femme. Mais d'où sort-elle celle-là, alors que la terre n'est censée être habitée que par Adam, Ève et leur fils meurtrier? Ce trou dans le texte, explique Daune, fournit une clé d'interprétation. Mais il nous montre que ce texte n'est pas un reportage journalistique, mais bien un récit des origines, sans aucune prétention historique. Il veut nous parler du lien intense qui unit Dieu et sa création. Le cas d'Abraham est bien pire. Si un père agissait comme lui aujourd'hui, écrit l'exégète, il faudrait le signaler à la direction de la protection de la jeunesse et à la police. Des auteurs athées, Dawkins et Hitchens, se servent d'ailleurs de ce quasi-infanticide pour illustrer le caractère immoral de la Bible. Or, attention, explique Daune, en cette lointaine époque, plusieurs cultes incitent au sacrifice d'enfants comme manifestation d'une confiance absolue en la divinité. Le récit d'Abraham s'inspire donc de cette coutume pour en finir par le condamner une fois pour toutes. Dans la section consacrée au Nouveau Testament, Daune a notamment retenu l'épisode du figuier condamné par Jésus. Pourquoi en effet s'en prendre à un arbre? Parce que le figuier ici est le symbole du temple, dans lequel Jésus vient juste de piquer une sainte colère contre le commerce religieux. Son absence de fruits, explique Daune, est l'image de la stérilité du temple et des institutions juives. Le message, ajoute-t-il, n'a rien perdu de sa résonance pour l'Église d'aujourd'hui. On retrouve aussi dans cet ouvrage un Moïse, un Jonas, tentés par le suicide, des considérations sur la polygamie acceptée du roi Salomon, une preuve que la conception du mariage peut évoluer, sur les frères et sœurs de Jésus, sur les deux récits de la mort de Judas et bien d'autres lectures originales. Dans de brèves réflexions qui suivent chacune des explications de texte, Dawn adopte une perspective plus résolument croyante, qu'on acceptera ou non. Ce qu'on ne pourra contester toutefois, c'est la leçon principale de cet essai. Une lecture littérale de la Bible, que ce soit pour y adhérer ou pour la rejeter, ne rend pas justice à l'œuvre et nous expose à la bêtise. Rigoureuses, inventives et actuelles, les interprétations proposées par Dawn fournissent un bel exemple de la voie à suivre. C'était un extrait d'un article qui est paru cette fin de semaine dans Le Devoir, qui est écrit par Louis Cornelier au sujet d'un livre que j'ai écrit, qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn, les récits insolites de la Bible ». Et c'est ça qui soutient les réflexions de notre émission ici depuis le début. On est rendu à notre 11e épisode. Et je cache pas que je suis très fier que cette critique soit à la fois positive et encourageante. J'espère que notre série d'émissions suscite autant de réactions puis des réactions aussi positives. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec le point de vue de M. Cornelier? N'hésitez pas à nous écrire. On va continuer notre habitude de répondre à vos courriels dès la semaine prochaine. Écrivez-nous à auditoire@radiovm.com. Maintenant, attention, dans quelques instants, on va pouvoir goûter au fameux texte des Cantiques des Cantiques. Commençons par une anecdote personnelle. Le Cantique des Cantiques, c'est le premier livre de la Bible que j'ai lu en entier. J'avais alors 12 ans et mon professeur de religion au Collège Notre-Dame avait demandé aux gars de la classe « Les gars, un jour, est-ce que vous voulez avoir une blonde? » Mais dans ma tête, je me disais oui. En fait, je criais oui. Puis, il nous avait recommandé de lire le Cantique des Cantiques pour y trouver une espèce de modèle de lettre d'amour. Le soir même, quand je suis arrivé chez nous, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert, j'ai trouvé le Cantique des Cantiques qui se trouve dans l'Ancien Testament, et j'ai été assez surpris. J'ai pas été surpris par le contenu sexuellement explicite du livre, bon, c'était pas la fin du monde pour moi, mais c'était surtout son imagerie bucolique. Je vais vous lire un premier extrait qui décrit la beauté d'une femme, et vous allez voir ce dont je parle. « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. » Derrière ton voile, tes yeux ont le charme des colombes. Tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres dévalant du mont Galaad. Tes dents me font penser à un troupeau de brebis fraîchement tondues qui remontent du point d'eau. Chacune a sa sœur jumelle, aucune ne manque à l'appel. Un ruban rouge, ce sont tes lèvres, ta bouche est ravissante. Derrière ton voile, tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Ton cou a l'aspect de la tour de David, bâtie toute ronde. 1000 boucliers y sont suspendus. Les boucliers ronds de tous les héros. Tes deux seins sont comme des cabris, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent parmi les anémones. À la fraîcheur du soir, quand les ombres s'allongent, je compte bien venir à ta montagne de myrrhe et à ta colline d'encens. » Ça, c'est tiré du chapitre 2, je crois. Et on le voit très bien, c'est très bucolique, c'est très agricole. Et pour un adolescent de 12 ans, lire ça, on dit « Mon Dieu, ça n'a aucun sens, jamais j'écrirai ça. » Et de fait, j'ai choisi de ne pas écrire ce genre de poésie-là à l'élu de mon cœur parce que je pense pas que ça aurait fonctionné. Par contre, quand on lit le Cantique des Cantiques, on voit ça. C'est tout simplement une suite de poèmes d'amour dans lequel on alterne une voix d'homme, une voix de femme. Et c'est ça, tout simplement ça. On considère que ça fait partie de la littérature de la sagesse parce que c'est présenté comme le plus beau chant de Salomon. Salomon, ça, c'est un roi. On sait qu'il y avait 1000 femmes et c'est lui qui a fondé le temple à Jérusalem. Mais c'est aussi le roi qu'on lui attribue une sagesse proverbiale. Cependant, quand on analyse le texte comme tel, on se rend bien compte que c'est impossible que ça date du temps de Salomon. C'est plutôt la langue, le style sont assez tardifs puis font penser à l'époque perse ou même hellénistique. Alors ça nous amène au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc 300 ans avant Jésus-Christ, on écrit ça. Alors que Salomon, lui, c'était plus 1000 ans avant Jésus-Christ ou 900 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez la différence. Curieusement, si on prend la peine de lire le texte au complet du Cantique des Cantiques, on ne verra jamais le mot de Dieu. Il n'apparaît pas dans ce livre-là, sauf sous une forme abrégée. Il y a un mot à un moment qui est écrit « flamme de Yah ». Au chapitre 8, verset 6, Yah, c'est comme un diminutif de Yahvé, le nom de Dieu. Donc, Dieu, on ne parle pas de Dieu dans ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'il fait partie de la Bible? Ben, avant d'être inclus dans la Bible au 1er siècle, après Jésus-Christ, ça a fait l'objet d'un long débat. La Mishnah garde le souvenir de toutes sortes de discussions au sujet de son acceptation parmi les écrits inspirés. C'est d'ailleurs l'interprétation allégorique d'un rabbi qui s'appelle Akiba, qui voyait là la déclaration symbolique de l'amour entre Dieu et son peuple. C'est à cause de cette interprétation allégorique-là que le Cantique des Cantiques a pu prendre sa place dans la Bible hébraïque. Bon, alors j'ai assez parlé. Je pense qu'on va pouvoir écouter quelques extraits du Cantique des Cantiques. Vous allez voir, on va essayer de goûter justement à toute la sensualité derrière ce texte-là. Le premier extrait, c'est le début du livre, chapitre 1, versets 1 à 4, puis on va sauter au chapitre 4, les versets 10, jusqu'au chapitre 5, verset 1. Alors, on écoute ça et on va en reparler tout de suite après.
Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancée, que tes caresses sont meilleures que du vin, et la senteur de tes parfums que tous les baumes. Tes lèvres distillent du nectar aux fiancés, du miel et du lait sont sous ta langue. Et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin verrouillé, ma sœur aux fiancés, une source verrouillée, une fontaine scellée. Tes surgeons sont un paradis de grenades avec des fruits de choix. Le henné avec le nard, du nard et du safran, de la cannelle et du cinnamome, avec toutes sortes d'arbres à encens, de la myrrhe et de l'aloès, avec tous les baumes de première qualité. Je suis une fontaine de jardin, un puits d'eau courante ruisselant du Liban. Éveille-toi, Aquilon, viens au temps. Fais respirer mon jardin et que ses baumes ruissellent. Que mon chéri vienne à son jardin et en mange les fruits de choix. Je viens à mon jardin, ma sœur, ô fiancée. Je récolte ma myrrhe avec mon baume, je mange mon rayon avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, compagnons, buvez, enivrez-vous, chérie.
Vous voyez, c'est vraiment plein de toutes sortes d'images évocatrices. Il y a le jardin, le nectar, le lait, le miel, des odeurs, des épices, une fontaine, des fruits. Tout ça sont utilisés pour décrire les caresses entre amants. Alors c'est très 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 sensuel. En passant, tout comme dans la dernière émission qui traitait du livre de Tobie, on voit apparaître le mot « sœur » dans un contexte amoureux. Puis dans nos oreilles contemporaines, ça sonne un peu bizarre. Bien entendu, c'est pas un inceste, c'est pas un frère et une sœur de sang qui sont en train de se parler de choses érotiques. Ce mot est utilisé dans la culture biblique pour parler de la parenté proche, mais aussi pour parler, des fois on voit ça dans le livre de Tobie, c'était le cas, on parle de personnes juives. Alors, on est tous des juifs entre nous, on est tous frères et sœurs. Et aussi, comme c'est le cas ici, une amoureuse et un amoureux qui se parlent, ben, ils vont se dire qu'ils sont si proches que c'est comme si leur relation, c'était la relation entre une sœur et un frère. Alors, bien qu'ils n'ont pas aucun lien de sang, ils vont utiliser ce mot-là. Bon, c'est une première chose. Avec la lecture qu'on vient de faire, je pense que vous avez pu voir à travers ces images-là le côté explicite, là, sexuellement explicite, qui commence à ressortir. Le texte biblique va utiliser toutes sortes de symboles, mais ces symboles-là sont très clairement marqués par la sexualité. Par exemple, dans ce qu'on vient de lire tout à l'heure, la première partie du dernier verset cité est commenté de façon assez directe dans la Tob. Je vais vous rappeler l'extrait biblique, puis on va regarder le commentaire de la Tob tout de suite après. C'est la traduction écuménique de la Bible. Alors, le texte biblique disait « Je viens à mon jardin, ma sœur, au fiancé, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange mon rayon avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Qu'est-ce que vous pensez que ça peut symboliser? Eh bien, le commentaire de la traduction écuménique est à la fois très simple et aussi assez explicite. Ils disent que ce verset-là, tout simplement, veut dire « Il vient et jouit d'elle ». Alors, voilà. Et tout de suite après, la dernière partie de ce verset invite les compagnons de l'amant à boire et s'enivrer de ces plaisirs-là. On commence à être loin de l'interprétation puritaine voulant que la Bible présente la sexualité de façon négative. C'est pas du tout là-dedans qu'on est. On est dans l'éveil des sens, dans la découverte de tout ça. Et on voit que tout ça est présenté comme quelque chose de bon, de beau. On va écouter un dernier extrait du Cantique des Cantiques. Là, ça va être le chapitre 5, les versets 2 à 6. Et tout à l'heure, bon, l'imagerie, ça tournait autour du symbole de la fontaine. Là, on va voir que c'est celui d'une porte qu'on ouvre, et une porte qui a un verrou, etc. Vous allez voir, cette image-là va être employée, et on oublie assez rapidement la porte pour voir que ça décrit plutôt une relation sexuelle.
Je dormais, mais je m'éveille. J'entends mon chéri qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit. J'ai enlevé ma chemise. Comment? Je la revêtirai? J'ai lavé mes pieds. Comment? Je les salirai? Mon chéri avance la main par le trou, et mon ventre s'en émeut. Moi, je me lève pour ouvrir à mon chéri, et mes mains distillent de la myrrhe, et mes doigts de la myrrhe fluide, sur les pommelles du verrou.
Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, on explore le Cantique des Cantiques. On a entendu les poèmes érotiques de la Bible qui sont à la fois explicites, mais qui utilisent aussi une richesse symbolique pour nous décrire la sensualité et la sexualité. La grande question, pourquoi est-ce que c'est dans la Bible? Je vous ai dit rapidement tout à l'heure qu'il y a une interprétation symbolique où l'amour du couple est symbolisé pour parler de l'amour entre Dieu et son peuple. C'est ça qui a permis au Cantique des Cantiques de rester dans la Bible à l'époque. Mais, traditionnellement, on retrouve deux interprétations du Cantique des Cantiques. Il y a celle-là, puis il y a aussi une interprétation réaliste d'un couple qui s'aime. On va essayer de décortiquer ces deux interprétations-là pour voir peut-être laquelle qui est la meilleure ou laquelle qui pourrait faire sens pour nous, pour chacun. D'abord, l'interprétation réaliste. Bon, il s'agirait de poèmes d'amour érotique et certains croient qu'ils étaient utilisés lors de célébrations de fiançailles ou de mariage. Pourtant, il n'y a pas vraiment d'allusion claire au mariage. D'ailleurs, le couple en question, l'homme et la femme, on ne sait pas s'ils sont mariés ou pas, ça semble plutôt être des personnes qui s'éveillent tranquillement à la découverte de la sexualité, de l'amour, de la sensualité. Le texte chante sans cesse les beautés physiques et sensuelles de la relation amoureuse. Alors, on voit que c'est très clair dans le texte. C'est difficile même de voir à un premier degré le symbolisme de Dieu et du peuple. On va revenir à ça tout à l'heure, mais au premier abord, on voit très, très concrètement que c'est ça. Par exemple, le livre va s'ouvrir avec l'expression d'un violent désir d'une femme. Ça commence comme ça, là. « Qu'il m'embrasse à pleine bouche, car tes baisers sont meilleurs que du vin. » Le terme hébreu derrière ça, c'est « dodeka », qu'on traduit par « baiser ». Mais « baiser », qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le texte hébreu de « dodeka » ? Ça signifie l'amour physique, et ça suggère toutes sortes de gestes amoureux qui peuvent être traduits par ça. Ça peut être des baisers avec les lèvres, des caresses, mais aussi des relations sexuelles. Donc, l'interprétation réaliste, c'est assez facile à comprendre, puis c'est assez facile à voir dans le texte. L'autre interprétation, c'est l'interprétation symbolique ou allégorique. Dans cette interprétation-là, l'amour entre les deux personnages devient une sorte d'allégorie entre l'amour entre Dieu et son peuple, puis plus tard, ça a été transformé même entre l'amour entre le Christ et son Église. Cette interprétation a inspiré beaucoup de théologiens, beaucoup d'écrivains qui, au cours de l'histoire, s'en sont servis. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu moins populaire que l'interprétation première. On reproche, entre autres, à cette interprétation-là de spiritualiser trop rapidement quelque chose qui est profondément humain. De plus, on trouve aucun endroit dans la Bible où l'amour de Dieu pour son peuple serait décrit d'une manière aussi érotique. Oui, on parle de l'amour de Dieu pour son peuple, mais pas dans ces termes-là. Dieu est amour, mais par exemple, dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, le terme employé pour dire que Dieu est amour, dans les lettres de Jean, entre autres, c'est « agapé », un mot grec qui veut dire une espèce d'amour spirituel, au lieu du mot « eros », qui est un autre mot grec qui veut dire « amour », mais qui lui renvoie à l'amour fusionnel et charnel. C'est jamais ce mot-là qu'on emploie pour parler de l'amour de Dieu. Puis pourtant, dans le Cantique des Cantiques, c'est bien entendu un amour « eros » dont il est question. Mais personnellement, moi, je pense qu'on pourrait travailler une troisième voie d'interprétation, qui pourrait faire peut-être le pont entre les deux premières. C'est sûr, on le voit, le texte décrit un amour très charnel et sexuel. Mais peut-être que c'est cet amour physique entre deux personnes qui s'aiment qui porte en lui-même une dimension spirituelle. Pas besoin de l'ajouter en essayant d'inventer que le gars, c'est le peuple et la femme, c'est Dieu, ou le contraire. Non, il y a quelque chose de spirituel dans cet amour-là entre le gars et la femme. Parfois, ce qu'il y a de plus humain, c'est aussi ce qu'il y a de plus spirituel. La sexualité, c'est pas forcément à l'opposé de la spiritualité. L'amour humain, moi, je pense qu'il y a quelque chose de beau et de bon en soi. Puis, il porte même quelque chose de divin. Puis, le Cantique des Cantiques, ben, c'en est la preuve. Une autre chose un petit peu plus personnelle dont je voulais vous parler, mon hymne grégorien préféré, c'est « Ubi caritas et amor, Deus ibi est ». Est-ce que vous le connaissez? En fait, en français, ça veut dire « Là où il y a l'amour, là est Dieu ». Puis je pense fermement que dans cette affirmation-là, il y a une sagesse profonde qui est toujours à redécouvrir. Où est Dieu? Bien, il est simplement là où il y a de l'amour. Et dans le Cantique des Cantiques, on le voit, cet amour-là, et cet amour-là se développe dans une sensualité, dans une sexualité, mais reste que c'est de l'amour quand même. Le Cantique des Cantiques, je vais terminer avec quelques éléments qui ont été inspirés du Cantique des Cantiques au niveau artistique. Plusieurs œuvres artistiques ont été faites à partir de ce texte-là. On peut penser au niveau pictural avec le peintre juif Marc Chagall. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ses tableaux sur l'amour entre futurs mariés, mais c'est directement inspiré des Cantiques des Cantiques. Gustave Moreau aussi a peint un tableau intitulé « La Sulamite ». C'est le surnom de la femme dans le Cantique des Cantiques. Allez voir ça si vous pouvez. En musique aussi, on voit plusieurs adaptations du Cantique des Cantiques. Entre autres, ici au Canada, il y a Peter Pringle puis Karen Young qui ont enregistré des albums portant le titre Canticum, je vais le dire, excusez-moi, c'est en latin, Canticum Canticorum. En France, Alain Bachung, vous le connaissez peut-être, et sa blonde Chloé Mons ont aussi fait un disque intitulé Cantique des Cantiques. Sur celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fond musical, puis le couple va lire le texte biblique. Comme je vous ai dit, c'est un homme et une femme qui dialoguent, alors ça se prête très bien à cette forme-là. Puis enfin, si on revient au Québec, plus récemment, il y a le groupe Mes Aïeux, je ne sais pas si vous le connaissez, un groupe actuel, qui a sorti une chanson qui s'appelle « Juste et bon ». Et dans cette chanson « Juste et bon », Mes Aïeux vont citer le Cantique des Cantiques et c'est assez drôle parce qu'ils vont le faire à l'intérieur d'une histoire humoristique et religieuse où justement il est question d'un curé et tout ça qui va initier quelqu'un à l'amour et à la sexualité par ce texte-là. Alors, si vous avez des oreilles curieuses, allez écouter ça. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez lire le Cantique des Cantiques dans votre Bible chez vous, mais vous pouvez aussi trouver toutes sortes d'œuvres artistiques qui ont été inspirées par ce texte. C'est déjà la fin de cet épisode, un peu spécial, je vous l'accorde. Dans certains milieux religieux, on n'est pas vraiment habitué de parler ouvertement de la sensualité, de la sexualité, mais pourtant, on l'a bien vu aujourd'hui, la Bible le fait. Elle décrit elle le décrit en montrant que ça peut être beau, que ça peut être bon, tout simplement. Si vous avez apprécié, je vous suggère encore une fois mon livre « Mais d'où vient la femme de Caïn » que je viens de publier chez Novalis et Mediapol. Et si cette émission a suscité en vous des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Entre autres, Vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pensez de ce décalage entre la sexualité décrite par la Bible dans le Cantique des Cantiques et la façon plus traditionnelle qu'on aborde la morale sexuelle dans le christianisme en général et chez nous, dans la religion catholique en particulier. Alors, le courriel pour nous rejoindre, c'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com, et on va en parler à la prochaine émission. La prochaine fois, on va faire une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. D'une part, on va regarder différentes règles de l'Ancien Testament qui nous paraissent insolites et même saugrenues aujourd'hui. Et on va commencer à regarder le Nouveau Testament avec un récit assez particulier, c'est un miracle raté de Jésus. Est-ce que vous savez de quel miracle il s'agit? Non? Ben vous allez voir ça la semaine prochaine. Et oui, Jésus a dû s'y prendre à deux fois avant que ça marche. Merci à Fanny Barrette-Goulet pour ses lectures, merci à Guy Lafrance à la technique, et surtout, merci à vous tous et toutes pour votre écoute. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.